Les rendez-vous M28. Racontons demain, prendre acte, relier et se projeter avec le vivant. Ce cycle de rencontres mensuelles s'inscrit dans le cadre de l'événement 25, les chemins du vivant portés par M28 Terre de Culture. Ces rendez-vous visent à relier les professionnels et publics associés à la démarche et à partager des réflexions autour de thématiques communes. Un lundi par mois, deux intervenants, artistes, chercheurs ou porteurs de projets, sont invités à dialoguer autour de problématiques thématisées à l'Hôtel d'Aurès à Montpellier, cœur battant de Montpellier 2028. Les rendez-vous M28, un projet réalisé en coproduction avec les radios du CRLO.
Bonsoir et bienvenue donc au sixième épisode de nos rencontres Racontons demain dans le cadre de M28, l'événement 2025. Donc c'est une série de rendez-vous qui a lieu une fois par mois. Et ce mois-ci, nous allons aborder la question de comment construire un territoire à hauteur d'enfant. Alors cette rencontre se fait en partenariat avec le collectif des radios libres d'Occitanie et on peut retrouver ces enregistrements qui sont diffusés en ligne. Pour parler de ça aujourd'hui, donc on accueille deux invités. Virginie Niédu, tu es comédienne, metteuse en scène et très actif dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, puisque tu as cofondé un festival qui s'appelle Clapotis et qui a la particularité de s'adresser à des tout petits. Et donc ça pose vraiment une vraie problématique, puisque tu affirmes t'adresser à des enfants de 0 à 6 ans, donc des enfants qui ne sont pas encore rentrés dans le langage des fois. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir des enfants de cet âge-là et donc les familles qui les accompagnent? C'est forcément des questions non seulement esthétiques, mais c'est plus largement des questions de comment on s'adresse à un public aussi large, avec toutes les problématiques que ça peut avoir. Et puis, Philippe Retz, vous êtes chef de projet Ville à hauteur d'enfants à la direction générale adjointe de la ville de Montpellier. Et il se trouve que Montpellier a développé un projet qui s'appelle la ville à hauteur d'enfants. Peut-être que ce sera bien de repartir un peu du concept, de l'histoire, de cette idée de qu'est-ce qu'une ville à hauteur d'enfants et à quoi ça sert. Est-ce que c'est un outil marketing ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui permet non seulement de travailler en direction des enfants, mais bien au-delà, puisque pour avoir suivi les débats qui suivaient cette notion, on voyait que parler aux enfants, c'est aussi parler à des personnes qui peuvent être en situation de handicap, c'est parler à des personnes âgées, c'est parler à des familles, c'est parler finalement à toute la population, avec un angle qui est celui de l'enfance. Donc la règle du jeu, vous la connaissez, l'idée c'est vous présenter, je vais vous passer la parole, de discuter l'un avec l'autre, l'une avec l'autre. Et puis ensuite, on pourra avoir un temps d'échange tous ensemble. Merci.
Bonjour à tous, donc Philippe Retz, chef de projet Ville à hauteur d'enfants. Je vais essayer de décrire rapidement la démarche qui a démarré à Montpellier depuis 2023-22, enfin dans ces eaux-là. Moi, je suis en place depuis 2023 en tant que coordinateur du projet. Et donc, parce qu'en fait, c'est un projet qui est à la fois transversal, c'est-à-dire qui intéresse tous les services, tous les pôles de la ville et de la métropole, et intersectoriel, c'est-à-dire que ça intéresse aussi tous les partenaires extérieurs, que ce soit les partenaires associatifs, universitaires. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on parle de démarche, parce qu'en fait, c'est au-delà d'un projet. C'est vraiment quelque chose qui est participatif, interactif et, bien sûr, qui se fait avec et pour les enfants. Donc, la démarche a démarré avec un séminaire qui a été animé par Francesco Tonucci. Francesco Tonucci, c'est un chercheur italien qui a, de son côté, donné naissance à un projet Ville des Enfants, et par la suite il a constitué un réseau, Ville Amis des Enfants, Ville des Enfants, donc dans sa ville natale de Fano en Italie. Et du coup, il est venu nous voir pour présenter sa démarche à la fois donc aux référents qui ont été désignés dans les pôles et services de la métropole et de la ville, et aussi à tous nos partenaires. En particulier, parmi nos partenaires, on peut citer les structures associatives d'éducation populaire, qui sont vraiment des partenaires très importants pour nous, et pas seulement, pas que. On a aussi des personnalités dans différents domaines, des architectes, des représentants d'autres secteurs. En fait, on a essayé du coup de démarrer une démarche par la présentation d'un projet, et on a commencé en fait à entraîner finalement, c'est un peu l'empowerment, ces personnes présentes pour s'engager dans une démarche à la fois, comme je l'ai dit, participative, contributive, avec les enfants. Et bien entendu, c'est dans l'esprit d'un projet politique. Sans cette impulsion politique, je pense que ce projet aurait eu moindre importance. C'est d'abord un projet politique, et ensuite l'implication des différents services et des partenaires qui, en fait, façonnent un projet qui met l'enfant au cœur de la démarche. En fait, l'enfant, c'est le point de référence de la transformation de la ville. Donc, comme dit Francesco Tonci, on reprend souvent ses paroles, on dit que penser la ville pour les enfants, en effet, c'est penser la ville pour tous, y compris pour les personnes les plus fragiles, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes malades. Donc, effectivement, si on dit qu'une ville est agréable pour les enfants, penser qu'elle sera agréable pour tous. Alors, dans tous ces aspects, dans la question des déplacements, bien sûr, dans ces aspects aussi, le rapport à la nature. Donc, il y a énormément, en fait, de composantes de la ville qui ont été étudiées. Et grâce à cette construction transversale autour d'un laboratoire, j'en dirai peut-être quelques mots plus tard, on a un petit peu tous les leviers pour façonner un petit peu ou transformer la ville telle qu'on la connaît et faire en sorte qu'elle soit plus agréable à vivre pour les enfants. Donc ça, voilà. Donc c'est à la fois une démarche sur un très long terme, puisqu'en fait tout est un peu remis en cause, avec des résultats immédiats. Donc on peut citer notamment les parvis à hauteur d'enfants. Donc ce sont des parvis qui sont un petit peu apaisés, même pas qu'un peu, vraiment apaisés, avec une mise à distance de la circulation automobile, de sorte que les enfants puissent venir à l'école déjà par leurs propres moyens, et donc ils puissent attendre aussi devant l'école tranquillement, si jamais ils sont en avance, et à la sortie de l'école, puissent jouer, que les parents aussi puissent parler avec d'autres parents, les enfants entre eux, jouer entre eux. Donc en fait, ce sont des espaces où vraiment on peut à la fois se reposer, discuter et être franchement dans un lieu de tranquillité. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, ce sont la création des cours aventures. Alors les cours aventures, ce sont, vous connaissez les cours d'école, on a tous pratiqué ces cours d'école, qui sont goudronnés avec au milieu un jeu central de ballon, souvent. Et donc, la démarche, c'est un petit peu de modifier ce système, c'est-à-dire de reléguer ce jeu central, en particulier plutôt genré garçon, et de faire en sorte que les cours soient en fait végétalisés, qu'elles soient désimperméabilisées, et qu'il y ait différentes ambiances dans ces cours de récréation. Donc, c'est-à-dire que les enfants puissent s'y retrouver, soit pour se reposer, soit pour jouer, soit pour lire, soit pour faire par petits groupes, par grands groupes, peu importe. L'idée étant que chacun puisse trouver un espace à sa guise. Et l'effet, en fait, cours aventure, cours oasis, comme on les appelle aussi à Paris, à Lyon, ils ont un autre terme. C'est aussi des transformations qui ont lieu dans d'autres villes. Ça permet aussi aux enfants de revenir beaucoup plus tranquilles. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'occasion, non pas de subir un jeu, peut-être aussi des fois d'être dans un espace un peu agité, en quelque sorte. Et là, en fait, ils reviennent plus calmes. Et les équipes enseignantes constatent que ces cours permettre une meilleure concentration des enfants et finalement de passer des meilleurs moments à l'école parce qu'ils ont pu profiter pleinement de ces espaces. Troisième exemple, puis j'arrêterai là parce que je ne vais pas monopoliser la parole, c'est par rapport donc aux aires de jeu. Les aires de jeu, comme on les connaît traditionnelles, c'est avec un toboggan vert, une balançoire rouge, enfin, peu importe les couleurs, mais en tout cas, c'est un stéréotype de jeu. Et là, de la même façon, il s'agit un petit peu de modifier les choses, de faire des parcs un petit peu plus en rapport avec la nature, plus en rapport avec des matériaux tels que le bois. Et là encore, avec une dimension plus inclusive, c'est-à-dire que si vous avez l'occasion de voir l'aire de jeu Richter, qui était nouvellement créée, on pourra voir par exemple une balançoire avec une nacelle, c'est-à-dire que les enfants en situation de handicap peuvent être, bien sûr avec les accompagnateurs, peuvent se balancer. Il y a aussi des jeux pour des enfants ou des adultes, enfin jeunes adultes, en fauteuil roulant. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, c'est accessible pour les personnes en situation de handicap qui accompagnent les enfants, et c'est aussi praticable pour les enfants qui sont eux-mêmes en situation de handicap. Et ces jeux, de la même façon, chose importante, c'est qu'ils renvoient sur une notion de prise de risque aussi. Alors, prise de risque mesurée, il ne s'agit pas de proposer des jeux en hauteur qui sont dangereux, mais juste des espaces de jeu pour que les enfants expérimentent. Et ça, c'est très important. Voilà quelques exemples. Et puis, donc, pour indiquer que cette démarche a déjà des premiers résultats que vous pouvez voir et des résultats à venir parce que c'est une transformation de longue durée pour faire en sorte que la ville, je le répète, soit agréable pour les enfants et pour tous.
Donc, moi, je vous présente... Enfin, je suis Virginie Niedu, comme l'a dit Nicolas. Je suis metteuse en scène et comédienne pour le collectif Le Baril, un collectif que j'ai fondé en 2013. Le Baril a pour vocation de créer des projets en territoire, essentiellement. C'est-à-dire comment, avec des habitants d'un quartier politique d'une ville, comment des habitants d'un territoire rural, etc., comment on crée ensemble avec les acteurs de cet endroit-là. On a commencé à faire ça avec des publics adultes, puisque les financements au final étaient par là, et puis petit à petit on s'est dit qu'on avait envie de l'amener ailleurs. Moi, j'écris des spectacles pour le très jeune public depuis 2013 dans lesquels j'ai joué, et donc c'est devenu une spécialité, quoi. Je me suis servie d'un outil très simple, c'est-à-dire ma maman qui est assistante maternelle, et j'ai toujours grandi voilà avec cette idée de vouloir relier en fait son travail avec le mien et comment on peut construire ensemble en faisant des métiers très différents. Donc en 2019, j'ai repris la direction d'un festival qui initialement s'appelait Festi Bébé et qu'on a renommé avec le collectif Le Baril en Clapotis. L'idée de Clapotis, c'était de donner un nom déjà plus poétique à ce festival, d'agrandir la tranche d'âge parce qu'il était dédié aux 0-3 ans et d'en faire un festival dédié aux 0-6 ans, c'est-à-dire d'inclure ces 3-6 ans qui sont souvent trop petits ou trop grands selon où on se déplace. Ce festival a la particularité donc d'être pour du très jeune public et donc avec un travail de réflexion particulier sur la programmation, les jauges et l'accueil de ce public-là. Un public très particulier puisque c'est un public qui ne se déplace pas seul. Donc en général, on fait en sorte que les parents quand même prennent plaisir aussi et je crois qu'on crée surtout quelque chose qui est familial. Voilà, ça c'est pour la part Clapotis. En parallèle de Clapotis, enfin en amont du festival, on a créé quelque chose qui s'appelle les ricochets du festival Clapotis. Donc ça, c'est vraiment une création en territoire, comme on peut en observer de plus en plus dans le domaine culturel, mais c'est une création en territoire faite avec les acteurs sociaux, culturels, et etc. de la communauté de communes Vallée d'Hérault. J'ai pas précisé que c'était en Vallée d'Hérault. Comment on crée tous et tout ensemble une création à destination du très jeune public. Donc là, on convie le personnel de crèche, des patients de l'hôpital de jour, les soignants de l'hôpital de jour, des élèves du lycée agricole. On travaille aussi avec le Sonambule pour des accueils, des résidences et pour plein de questionnements. En fait, comment nous, acteurs du territoire, on se relie pour, bah voilà, pour créer ensemble. Le mot créer revient beaucoup, hein, vous avez vu. J'avais un petit peu triché parce que j'ai, en fait, il y a un an, deux ans maintenant, j'ai accompagné l'équipe de Montpellier 2028 à Paris pour présenter la candidature. Et j'avais écrit un petit texte et je me dis que ça va peut-être vous raconter quelque chose. Ce que j'explique, c'est que pendant un an, nous rencontrons régulièrement les services de la communauté de communes pour l'organisation, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec la gestion de logistique, avec la gestion des déchets, fait entrer avec tous les services, et tout ça pour que les enfants et leurs familles se sentent au mieux. Donc, en dehors de ça, on met en œuvre donc cette création de territoire qui se déroule pendant plusieurs mois dans plusieurs villages de la vallée de l'Hérault, à la fois pour développer la partie scénographique du festival, avec le personnel de crèche, les patients d'hôpital de jour, les scolaires. Et cette année, en fait, pour la première fois, donc c'était il y a deux ans la première fois, mais cette année, on y retourne. On a décidé de former le personnel de crèche, en fait, et de leur proposer de comment créer et inventer sa propre histoire et comment la jouer. Et donc, les puéricultrices vont créer un théâtre de deux minutes, des spectacles de deux minutes pour deux personnes. Voilà, pour le parent et l'enfant. En fait, j'ai décidé de travailler avec ce public-là, mais je ferai une toute petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on se retrouve avec beaucoup de publics féminins qui ont une charge mentale assez folle et qui sont très proches de l'enfant. Et nous, on s'est dit qu'il n'y avait pas mieux entre le personnel de crèche, nous, équipe artistique, pour trouver les atouts pour proposer des créations. Et puis après, je vous en dirai peut-être un peu plus. Cette année, on est soutenu par M28 pour un projet tout particulier qui s'appelle « Ma tête est une boîte », où l'idée est de mettre en parallèle ce qui se passe à l'intérieur de la tête d'un enfant et de faire le parallèle entre la musique électro et ce qui se passe sur un dance floor. Voilà. je suppose que ça va vous intriguer. Je vous en dis un mot peut-être un peu plus tard. Je te laisse dire d'autres choses.
Oui, première question qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu travailles avec des structures relais sur le terrain? Et par ailleurs, est-ce que aussi tu prends par rapport aux assistantes maternelles, ces personnes de cette profession, est-ce que tu passes par elles aussi pour être relais? Ou est-ce que, voilà, quelle est ta configuration de travail en fait sur le terrain par rapport aux enfants? Par rapport aux enfants et aux personnes qui les entourent.
Ouais, ça me fait penser justement, d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la thématique en disant que la thématique aujourd'hui était construire un territoire à hauteur d'enfants, et nous c'était comment construire sur un territoire à hauteur d'enfants. C'est-à-dire que nous on construit pas le territoire, mais on s'imprègne du territoire pour construire à hauteur d'enfants. En fait, les puéricultrices et tout le personnel, enfin toutes les structures sociales et culturelles, et pas que, qu'on rencontre, sont des personnes relais. C'est-à-dire que ça va de récolter du matériel et faire passer des mots aux parents pour faire la scénographie du festival. Mais c'est surtout, en fait, moi, en amont de la création, je fais toujours deux à trois réunions avec donc des directrices de crèche, des puéricultrices. On essaye toujours d'avoir deux niveaux. Et on essaye de voir comment, à partir d'une thématique que je propose, on peut créer quelque chose qui correspondra à tout le monde. Cette année, sur ma tête est une boîte, c'est la première fois que je vais aussi loin dans un projet comme ça. Parce que c'est un projet qui est dédié à leur... En fait, on est parti en crèche, mais aussi en école primaire. On est parti aussi en centre de loisirs, et à Montpellier, et sur la communauté de communes Vallée de l'Hérault, et on va aller jusqu'à 7. Enfin, en fait, on s'étend sur tout le territoire M28, nous. Et en fait, on a fait une première étape avec les puéricultrices qu'on met toujours à contribution, c'est-à-dire qu'on part en résidence de création, mais on leur dit précisément, on ne vient pas vous fournir un atelier où, voilà, on va vous faire quelque chose de clé en main, ça va être génial, et les enfants vont sortir complètement grandis. Non, on dit on vient explorer avec les enfants, on vient créer avec et pour les enfants. Donc comment on arrive dans une crèche? En fait, sur ce coup-ci, je travaille avec un chercheur en sciences sociales qui s'appelle Félix Dupin-Ménard. Et on a été avec lui tester la musique électronique avec les enfants. Donc de deux différents âges, de 1 an à 11 ans. jusqu'au CM2. Et en fait, on était d'abord avec des musiques existantes pour tester selon quatre critères qui sont la rythmique, la mélodie, la texture et ce que ça nous provoque subjectivement. Et on a été testé, voilà, voir comment les enfants réagissent avec des musiques très différentes, de l'électro un peu douce jusqu'à la trance. Hein. La trance leur plaît beaucoup, mais on gardera pas le le style. Et en fait, à partir de ça, voilà, avec Félix, on a noté quoi ils réagissent, qu'est-ce qui fait que c'est trop excitant, pas assez, comment on peut se poser, comment on peut se mettre à danser tous ensemble. Et en parallèle, comme c'est une pièce qui raconte ce qui se passe à l'intérieur de la tête d'un enfant, ben on a fait des ateliers d'écriture, on a fait de la récolte. Moi, c'est la première fois que je fais de la récolte de paroles auprès d'enfants de 2 ans avec mon Zoom. Et j'ai des paroles. et voilà. Et l'idée, c'est que avec ce qu'ils ont eu envie de nous raconter, ben moi j'écris tout un texte sur les peurs, les limites, les envies, les rêves, etc. Et pareil. Et Félix, à partir de ces thématiques proposées, ben il crée une musique. Et les musiques maintenant, elles ont des noms. Il y en a une qui s'appelle Trop Coucoule. voilà. J'ai trop peur, etc. Donc, et puis, ce sera évidemment à destination du jeune public et de leur famille ou accompagnants.
Très bien. En fait, peut-être une petite précision. On parle d'âge, et c'est vrai que la question qui revient souvent, c'est finalement à qui on s'adresse quand on consulte des enfants, quelle tranche d'âge. Et là, effectivement, c'est un peu compliqué. Parce que pour recueillir des paroles, c'est pas toujours évident, en effet, en fonction des âges. Et nous, en fait, on a suivi un petit peu l'indication de Francesco Tucci, et on travaille avec des enfants autour de 10 ans, qui sont plutôt au CM1, CM2, 6e, enfin, autour de 10 ans. Et de sorte qu'en fait, ce sont des enfants qui quand même commencent à être en position d'autonomie, d'une part, et d'autre part, qui ont des opinions, des envies, des attentes. Et donc, c'est intéressant de travailler avec eux. Pour autant, on étend le spectre des âges, parce qu'effectivement, on travaille aussi avec les tout-petits. On peut déjà citer le projet Milleformes, qui c'est un centre d'art qui va s'adresser aux plus jeunes enfants. Donc ça c'est très important, ça va être vraiment un espace dédié, entièrement gratuit. Et on peut aussi citer des projets de crèches, de semi-plein air, comme il va y avoir un projet donc qui va apparaître, enfin une inauguration d'une nouvelle crèche qui va être actée très prochainement, donc pour proposer une crèche avec des espaces de plein air pour que les plus petits d'entre eux puissent effectivement avoir davantage de contact avec la nature. Donc, on travaille donc tout ça pour dire que tu es plutôt centré effectivement sur cette tranche d'âge. En effet, c'est compliqué de s'adresser aux différentes tranches d'âge et que on peut y répondre avec en multipliant les projets et en multipliant les réponses et sans négliger aussi la tranche d'âge supérieure par rapport aux adolescents. C'est aussi une problématique qu'on va aborder pour là encore. Être sur un champ le plus large possible. Bien sûr, on ne pourra pas répondre à toutes les attentes et à tous les publics, les différents publics d'enfants en réalité, mais on va en tout cas s'y employer.
Et du coup, la question que je me posais, il y avait ce comment on en arrive là pour créer un projet comme celui-ci et quels sont les acteurs principaux qui vous accompagne?
Alors, les acteurs principaux, donc du côté adulte, c'est les services et pôles donc opérationnels de la ville de la métropole. Donc, c'est ceux qui construisent la ville, services des espaces verts, aménagement urbain, les responsables des aires de jeu. Donc, on va tous les citer. Mais bien sûr aussi les responsables de la culture, du sport, parce que c'est comme une dimension très importante pour l'émancipation et l'apprentissage des enfants. Et surtout, on travaille avec les enfants. C'est ça qui est important. Et donc, en fait, on travaille avec plusieurs plusieurs comment dire assemblées d'enfants, déjà d'une part avec le conseil municipal des enfants qui existe à Montpellier depuis bien des années, et puis par ailleurs avec des enfants des conseils de quartier comme les enfants du conseil de quartier de la Mosson, des enfants des centres de loisirs ou des enfants d'école. Et quand on travaille avec des enfants des écoles, on travaille sur le temps périscolaire, c'est-à-dire sur la pause méridienne entre midi et 14 heures. Et donc on essaye de faire plusieurs séances, d'articuler plusieurs séances pour essayer donc d'avoir de constituer un projet avec eux. Alors je vais prendre un exemple très concret, c'est par exemple lorsque l'on fait un parvis à hauteur d'enfant, eh bien il y a 4 séances qui sont prévues avec les enfants de ce parvis. Et donc les services commencent par venir présenter les possibles, c'est-à-dire qu'ils viennent la personne en charge de l'espace vert vient avec des échantillons d'espèces végétales, des photos ou même des branches pour dire bah voilà ce qu'on peut faire. On peut planter des arbres, y compris des arbres fruitiers. Bien sûr, il faut planter des arbres qui sont adaptés à notre climat. Mais en tout cas, on énonce un peu les possibles. Pareil pour les matériaux, pareil pour le mobilier urbain. Donc voilà, donc il y a une présentation et après les enfants s'emparent de ça. Ils essaient de se projeter et dans l'espace parce qu'on voit sur place aussi ce qui est possible de faire et par des dessins, par des maquettes et enfin surtout c'est vraiment on prend en compte leurs attentes, leurs besoins et on leur dit ce que l'on fait par rapport à leurs idées, c'est-à-dire qu'on revient vers eux en fin de processus pour leur dire bah voilà vous nous avez dit ça et voilà ce qu'on fait. Alors bien sûr il y a des idées qui ont été prises et parce que dès qu'on chaque fois que l'on peut, bien sûr, les idées des enfants sont mises en application. Et puis, des fois, on dit, bah, là, on n'a pas pu parce que, mais en revanche, on énonce les raisons. Et puis, à la toute fin du processus, eh bien, l'inauguration. Et l'inauguration du parvis se fait généralement à 17h, à la sortie des écoles, pour que, et les enfants, enfin, les enfants qui ont travaillé au projet, mais tous les enfants, et leurs familles puissent voir un peu le résultat. Alors, c'est un peu long dans la mesure où, alors, ça, ce qui est long en fait en réalité, c'est pas tellement la consultation des enfants, c'est surtout ce qui vient derrière, c'est-à-dire que c'est toutes les plans d'exécution, c'est technique. Hein, donc là, il faut vraiment bien tout tracer, y compris dans les sous-sols, parce qu'il y a beaucoup de réseaux. Et après, c'est la question du lancement des marchés publics et des travaux. Donc les travaux, souvent, c'est ça qui est le plus long. Hein. Et puis, bien sûr, alors souvent, il s'est en décalé, c'est-à-dire que dès qu'on peut, suivant l'époque aussi, la saison, eh bien, il y a les plantations qui peuvent intervenir avant ou après les réalisations techniques. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est moi, je dirais que c'est une affaire au moins entre 6 mois, plutôt un an, autour d'un an. Voilà, on va dire en fonction des contraintes, la saison, des budgets, etc. Donc, grosso modo, c'est un an. Voilà.
D'accord, parce que c'était la question qui est derrière, c'est qu'un enfant, c'est un devenir. On ne reste pas un enfant et on a tous été enfants. Ouais. Donc c'est la question qui est derrière, c'est finalement c'est quel est cet objet enfant? C'est-à-dire que concrètement qu'est-ce qu'un enfant? On a tous, pourquoi consulter un enfant puisqu'on a tous été des enfants? Et quels sont les enfants qu'on consulte? Ont-ils plus de légitimité à dire, puisque eux, au moment où ils parlent, c'est pas pour eux que ça va se passer, puisque ça va se passer pour les enfants à venir, encore une fois. Enfin, c'est toujours cette idée du temps qui passe. Comment on fait avec ça?
Alors, je pense qu'on peut compter sur la question de la transmission. Déjà, les enfants eux-mêmes ont des frères et sœurs, plus petits, plus grands. Enfin, bon, bref. Ils sont pas sœurs aussi, hein. Donc, c'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, eh bien, bon, les enfants d'après, effectivement, de l'école, l'année scolaire suivante vont le voir, en effet. Mais certains enfants continuent. Enfin, on a les contacts des enfants, c'est-à-dire par exemple les enfants du conseil municipal. On peut très bien revenir vers eux, même si leur mandat est d'un an entre parenthèses. Mais on peut très bien les contacter et les inviter justement au moment de l'inauguration, s'ils ont été consultés pour telle ou telle réalisation. Donc ça, c'est important effectivement. Vous avez raison. Je pense que les enfants qui ont participé, quoi qu'il en soit, doivent forcément être associé à la restitution du projet. Alors effectivement, en gardant leurs coordonnées et puis en essayant de les inviter autant que possible, y compris si on les a plus entre guillemets dans le radar. Mais ça c'est très important. Donc les enfants aussi sont rapporteurs entre au sein de leur classe, parce que par exemple les conseils municipaux des enfants représentent des écoles et des classes, et lorsqu'ils ont abordé un sujet au conseil municipal des enfants, normalement donc sur le temps scolaire, il y a des temps prévus pour que l'enfant dise ce qui s'est passé, de quoi ils ont débattu et qu'est-ce que ça donne. Et donc là, effectivement, alors quant à la représentativité, c'est pour ça que je parlais de différents cohortes d'enfants, parce que c'est pas toujours les mêmes. C'est pas effectivement le conseil municipal des enfants, c'est un conseil qui est établi donc selon un choix des élèves des classes. Donc on a aussi la possibilité de s'adresser directement à des enfants des écoles, des centres de loisirs, de certains quartiers. On va donc dans tous les quartiers. Donc on a deux zones d'expérimentation, ça tombe bien parce qu'elles sont complètement différentes l'une de l'autre. La ZAC Port-Marianne, donc sur le quartier quartier nouveau de Montpellier, et puis le quartier de la Mosson. Donc ça veut dire que on alterne les points de vue et on va voir les enfants. Alors on peut pas dire qu'on a une représentation exhaustive, ça c'est serait trop compliqué. Il faudrait effectivement avoir faire une étude scientifique. On n'a pas les moyens. En revanche, on essaye d'avoir le plus d'éléments possible pour faire en sorte que ce que disent les enfants représente effectivement les idées des autres. Et donc ça, c'est en multipliant les points de contact avec eux.
Oui. Si vous voulez que je réponde à quelque chose,
oui. Est-ce qu'il y a des questions?
J'allais dire que par rapport aux enfants qui ne sont pas des objets. Non, mais la différence avec l'adulte, c'est que l'adulte a été un enfant mais ne l'est plus du tout, et que en fait se concerter avec lui en début d'année, en fin d'année, effectivement il y a une évolution, mais déjà il y a un temps assez certain pour grandir, pour s'éveiller, pour réfléchir. Moi, je vois que quand je recroise sur un projet comme la boîte, je recroise des enfants en début d'année et en fin d'année. Il y a eu quand même une réflexion, une maturité. Et puis, il y a ce rapport au départ à l'impalpable. On est plutôt dans l'ordre du rêve quand on crée avec les enfants. Je pense pareil, hein, qu'on crée un parvis ou un spectacle. On est dans quelque chose qui n'existe pas. Et petit à petit, en fait, on va le mettre en place pour de vrai. Et en grandissant, bah, soit il s'en servira, soit au contraire, il sera fier de l'avoir fait et il y aura contribué. Voilà, c'est chouette.
D'abord, pour monsieur. En fait, je suis très intéressée par tous vos projets. Et je travaille également avec des enfants jusqu'à l'adolescence depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc je connais un peu le sujet. Et j'aimerais savoir si dans vos projets, en fait, les enfants interviennent seulement en phase de consultation et conception, ou est-ce que vous les amenez aussi sur le chantier, une sorte de mini-chantier, les amener à suivre la fabrication, soit sur des prototypes, soit sur la réalisation finale. Et j'aimerais savoir si sur toute la phase, en fait, de la conception à la réalisation, à la restitution, si vous les accompagnez, ou en fait ils sont accompagnés sur des petits reportages qu'ils pourraient faire, sur des traces de toute cette histoire qui a duré sur un an et demi, voire deux. Et autre question, est-ce que vous travaillez aussi avec des enfants handicapés ou malvoyants, ou est-ce que vous travaillez aussi avec des enfants qui sont hospitalisés, comme ça peut se faire à l'hôpital Necker? Voilà, pour l'instant.
Alors, ça fait beaucoup de questions. Par rapport aux enfants handicapés, en situation, enfin, à l'hôpital, etc., je dirais qu'il faut bien voir que cette démarche a commencé il y a deux ans, enfin, vraiment, dans sa phase opérationnelle, elle a démarré il y a deux ans. Et en effet, comme vous dites, il y a différentes strates de prise d'opinion des enfants, et la strate de la plus simple, consultation, la concertation et la co-construction. Pour l'instant, on est vraiment sur le démarrage, c'est-à-dire qu'on est sur la consultation d'enfants, c'est-à-dire qu'on leur demande leurs avis, et lorsqu'il s'agit d'un parvis d'enfants, à hauteur d'enfants, en effet, pour l'instant, on leur donne à voir les zones possibles et on leur donne le choix entre différentes options. C'est-à-dire qu'ils sont pas effectivement dans la co-réalisation. On n'est pas encore dans cette strate-là. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on apprend. Parce que et je dirais que les autres villes qui ont ce type de démarche, comme à Strasbourg, à Lille ou à Lyon, avec qui on est beaucoup en rapport, ils sont à peu près dans la même optique. C'est-à-dire que pour l'instant, on est à se dire que on essaye d'être le plus possible, enfin de laisser les, on essaye de donner le pouvoir d'agir aux enfants, c'est très clair. Mais pour l'instant, il faut qu'on en ait les moyens. Donc c'est pas une évidence. Alors on démarre sur la strate de la consultation. Après effectivement, on va être sur la strate de la concertation, c'est-à-dire qu'on donnera plus de leviers aux enfants. Ils seront effectivement davantage partie prenante du projet. Et après, phase ultime, c'est la co-construction. Donc, un véritable acteur du projet avec des idées, des apports de leur part. Donc, tout ça va cheminer, quoi qu'il en soit. Pour commencer, je pense qu'ils ont déjà beaucoup d'espace pour dire et proposer. Et ce qui est certain, c'est pour ça qu'on revient les voir. C'est parce que, justement, on revient vers eux pour voir si ce qu'ils ont dit est conforme à ce qu'on a fait. Et ça, c'est l'épreuve de vérité. Donc, c'est à ce moment-là que l'on commence à voir effectivement s'il y a écart ou pas entre ce qu'ils ont dit et ce qui a été réalisé. Si l'écart est important, eh bien, effectivement, ça veut dire encore qu'on a beaucoup à apprendre et beaucoup à faire pour améliorer les choses. Et si cet écart, parce qu'en fait, les enfants le disent, hein, ils se privent pas de dire, ben moi j'avais proposé telle ou telle chose, je le vois pas, etc. Donc, et c'est là où on voit effectivement qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Alors, le chemin est compliqué, mais en effet, idéalement, dans l'idéal, on arrivera à une ville co-construite avec tous les enfants partout où ils sont et dans toute situation. Voilà. Mais ça prend du temps.
En fait, c'est vraiment un cas concret que j'aimerais que vous nous donniez, en fait, par rapport, par exemple, on peut prendre l'exemple de ma tête et une boîte. Mm-hmm. Comment ça se passe exactement en termes de concrètement avec les enfants, les enseignants, enfin les assistantes maternelles ou les primaires, combien de sessions sur justement reprendre un peu le temps, la durée, voilà, concrètement, comment vous appliquez des choses?
Alors, c'est un projet qui se construit en deux phases, en tout cas en deux saisons différentes. Là, on est sur la grosse première phase, c'est la phase sur laquelle on est accompagné par M28. Et en fait, en un an, évidemment, c'est pas tous les jours, hein, c'est assez réparti. On a fait des rencontres d'abord avec des enfants de crèche. On a été dans 5 crèches différentes. Essayer là-bas d'organiser des grosses fêtes à 9h du mat, mettre de la musique. Il y a Félix qui est venu, il a mis de la musique électro et on a essayé de voir ce que ça provoquait sans rien faire. Et bah, à quatre pattes et en tétine, on danse de fou. Enfin, c'est assez incroyable. Ça nous a complètement dépassé. On avait demandé au personnel de crèche d'être vraiment présente. C'est pour ça tout à l'heure je disais, on leur disait qu'on proposait pas un atelier clé en main, on proposait une exploration, une immersion, et qu'il fallait surtout qu'elles sachent qu'on pouvait complètement se planter. Qu'il y a des moments qui allaient peut-être être super, il y a des moments qui allaient être tout pourri, et qu'il fallait l'accepter. Et donc finalement, ces fêtes, elles se sont rallongées. Nous, on s'est rendu compte que les tout petits qui ont pas forcément un taux de concentration immense, bah, pouvaient danser pendant 15, 20 minutes, encore. Et on a pu tester ce qui marchait ou pas. Clairement, par exemple, chez les tout-petits, on a constaté que plus il y avait de la rythmique, plus il y avait des beats, quoi, vraiment la batterie, plus ça y allait. C'était très étonnant. Et on est venu vraiment faire cette recherche. Est-ce qu'il existe une musique pour les enfants? Non. Parce qu'on part quand même d'une musique souvent qui est très aiguë, des petites paroles tout comme ça, et ça a très bien passé à la radio, mon tout. Et en fait finalement plus c'était trash, plus ils y allaient, quoi. C'était assez étonnant. Après avec donc les petits, on a essayé de faire vraiment ce côté libre. On s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un élément assez essentiel, c'est-à-dire de contenir quand même, qu'il y ait un espace contenu pour pas que ça parte dans tous les sens, mais c'est vraiment une piste de danse, quoi. Ça, c'était assez important. avec les crèches, on a fait comme ça, on a fait des petites interviews, mais on s'est beaucoup servi de cette récolte de danse. Avec les écoles primaires, on a rencontré deux classes différentes de la ville de Montpellier, qu'on a vues plusieurs fois. Et là, en fait, on a mis des marqueurs au sol, des scotchs, d'espace, en leur proposant, voilà, de se placer à différents endroits selon ce que leur provoquait la musique. Là, je parle encore de musique existante. Donc, on avait créé un set électro. Et ils se mettaient plus ou moins près, etc. Et après, on leur a appris à comment on composait une musique, mais nous, on la décompose en nous-mêmes. Donc, on a séparé les textures, la mélodie, les beats, etc. On a vu sur quoi ils réagissaient. On leur a fait explorer eux. Et au fur et à mesure, Félix, de tout ça, bah, il créait, il composait, puis on testait un petit peu en direct tout ça. Et là où j'ai mis les personnels à contribution, les équipes, par exemple les équipes enseignantes, c'est que pendant qu'on faisait de la musique électro, les instits avec les parents accompagnateurs, ils étaient en train de faire des ateliers d'écriture. Après, on échangeait les groupes. Je leur ai fait inventer, voilà. Ils étaient trop contents de faire avec leur maîtresse des « tu préfères » ou « tu préfères ». Je sais pas si vous savez ce que c'est. Tu préfères avoir trois bras sur la tête ou quatre jambes de 2 mètres. Et ça, c'est des choses qu'on aimerait intégrer au spectacle, mais c'est pour traiter, par exemple, la question des choix, mais aussi pour travailler aussi le rapport à l'espace, au plateau. Peut-être qu'on va dire, ceux qui préfèrent avoir quatre jambes sur la tête, ils iront danser de ce côté. Enfin, comment on explore l'espace, la musique et tout ça en même temps?
Tution, c'est le spectacle?
Alors, il y a une première étape, c'est-à-dire qu'il va y avoir trois jours de présentation au Festival Clapotis, avec une forme qu'on appelle la toute petite boîte, parce qu'elle sera plus courte et destinée aux 0-6 ans. Et après, il y aura une présentation le 1er octobre dans le cadre de l'événement M25, on dit, M28, mais en 2025. Et donc là, ce sera dédié à une tranche d'âge plus large, aux familles, etc. Et l'idée, c'est que à l'intérieur de ce spectacle, il y aura à la fois des mots que moi je vais interpréter, des textes que j'ai écrits, mais il va y avoir aussi des montages parce qu'on les a enregistrés. Et comme c'est une pièce immersive, ils vont participer aussi en direct avec un micro qui va passer. Et voilà comment on improvise ensemble. C'est festif. C'est vraiment une pièce. Alors, il faut un petit peu du temps pour capter le truc, mais c'est une pièce. Ça part d'une vraie pièce de théâtre où tout le monde est assis. On se questionne sur ce qu'il y a à l'intérieur de la tête d'un enfant, et au fur et à mesure, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur de sa tête, ses émotions sont matérialisées par ces morceaux d'électro jusqu'à ce qu'on décide de danser tous et tout ensemble.
Est-ce qu'il y a des chantiers sur lesquels vous allez être associés dans la ville? Est-ce qu'il y a des zones particulières qui sont destinées à être transformées avec les enfants dans la ville? Est-ce que vous avez un calendrier comme ça, un peu, je sais pas moi, à l'horizon de 2-3 ans?
Alors, il n'y a pas de calendrier, puisqu'en fait, comme je l'ai dit, c'est un projet qui de long terme, donc un projet au long cours. La grosse transformation actuelle, c'est Quartier de la Mosson, avec la création de nouveaux groupes scolaires. Donc, à l'intérieur de ces projets de création de groupes scolaires, les enfants sont associés à certains choix de mobilier, de signalétique et autres. Et avec les enfants, il y a des expérimentations. Par exemple, il y a eu la création de mobilier d'architecture temporaire sur le parvis de l'espace Gisèle Halimi. Donc c'est des espaces assez intéressants parce que c'est des lieux intermédiaires en quelque sorte où on peut à la fois s'asseoir, jouer. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de les voir, mais je vous dirai ce que vous en pensez. Et avec les enfants, ils sont beaucoup. Et l'association Passe Muraille qui travaille donc sur ce quartier. Donc c'est le manager, la CERM qui conduit ce vaste projet avec un budget assez important, il est de l'ANRU. Donc là, le grand projet en cours, c'est Quartier de la Mosson avec effectivement le façonnage d'une ville à hauteur d'enfants, en particulier au niveau des circulations et au niveau des abords des écoles, mais pas que, au niveau aussi des espaces verts, puisqu'il y a réhabilitation des espaces verts, il y a beaucoup d'espaces verts, finalement, la Paillade, Quartier de la Mosson, pardon, je suis depuis quelques temps à Montpellier, donc ça revient. Et donc il y aura des aménagements du parc La Garrigue, donc il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Je pense que donc ça veut dire que en termes de réalisation, j'ai pas de calendrier en tête, mais ça s'échelonne entre maintenant, comme je l'ai dit. Donc par exemple, le parvis de l'école Miro qui se situe donc à Port-Marianne, donc là je change de quartier, va être inauguré en mai, fin mai. Donc ça c'est déjà, ça veut dire que c'est un nouveau parvis. Alors que initialement prévu, il y avait une route, une rue qui passait juste devant l'école. Donc tout ça a été transformé. Donc maintenant c'est un parvis, il n'y a plus de circulation et l'espace a été redistribué. Donc c'est-à-dire que là maintenant c'est vraiment les enfants qui ont le monopole de l'espace. Enfin les enfants, les familles, tous les passants, tous les riverains, les habitants de Montpellier qui ont le monopole sur cet endroit. Et donc ça c'est un. Et puis donc en termes de calendrier, je suis désolé, ben le projet Mille Formes va être inauguré l'année prochaine. Donc ça c'est une autre étape. J'ai pas toutes les dates en tête, mais donc là ça va être une étape importante parce que ça veut dire que c'est un centre d'art nouvelle génération avec le partenariat du Centre Pompidou, donc qui va être inauguré, il me semble février 2000. Voilà, 6 février. Février 2026. Et je suis en train de chercher là les. Voilà, c'est. Mais désolé de pas vous pouvoir répondre précisément, mais en tout cas, voilà, il y aura des grandes étapes, effectivement, avec des inaugurations qui vont être sur un calendrier assez large. Voilà. Donc, et je vous le dis, ça commence fin mai déjà avec l'inauguration du parvis Miro.
Je peux rebondir. Je vais me permettre de rebondir. Donc, je suis Lydie Marquis. Alors, j'ai débuté aujourd'hui. Je suis la directrice de Mille Formes. On inaugure effectivement le 6 février. La particularité de Mille Formes, c'est que c'est un centre d'art où toutes les œuvres ont été conçues pour les enfants. C'est-à-dire que c'est pas un centre d'art. C'est aussi un centre d'art en soutien à la création artistique, évidemment. Mais là, on part vraiment du prisme de l'enfant et que l'enfant va toucher. L'enfant va peut-être même lécher. Pire du truc pour les œuvres et que tout est conçu pour que l'enfant et donc par ricochet évidemment sa famille puisque c'est pas une garderie hein, c'est un endroit où tous les enfants seront accompagnés par au moins une personne par ce prisme-là on atteint évidemment la famille mais l'adulte est accompagnant. Et la parole est vraiment donnée aux enfants. Et l'idée aussi, par rapport à la médiation qu'on mettra en place, même si ça va être un vaste sujet, c'est de vraiment de ne pas être dans une parole descendante d'adulte vers l'enfant, mais d'être le plus horizontal possible. Nous, on va donner les règles du jeu, et puis après, l'enfant va faire quelque chose et va mettre en place, va participer à l'activation d'une œuvre, en fait. En fait, à chaque fois, chaque œuvre est activable.
19 mai à 16h30, inauguration du parvis Miro. J'avais un doute sur la date.
On fait une battle de date.
Non, mais parce qu'il se trouve que celle-là, je la connais, mais après, effectivement, mais désolé, mais donc le calendrier va être assez large, en fait, en réalité, avec pas mal de dates.
Notamment par rapport au parc du Grand Lunaret. Il me semblait que là aussi, il y avait des intentions assez fortes. Et c'est 2000 hectares, je crois. Voilà comment on fait avec un vaste parc comme celui-là.
Effectivement, c'est des grands projets qui sont sur la table. Là, j'avoue que je n'ai pas de date de réalisation à vous communiquer parce que je suis pas trop avec ce projet pour l'instant. Mais ça veut dire que ça va peut-être aussi se faire par tranches successives, avec peut-être des réhabilitations de zones et que pas sûr qu'effectivement, parce que d'un autre côté, il faut aussi que ce parc reste ouvert. C'est important. Donc, je crois qu'il y a l'idée, c'est de continuer à faire en sorte que ce parc soit ouvert au public. Et après, en effet, là, j'avoue que il faudrait que vous laissiez vos coordonnées pour que je me renseigne et vous donner ces dates. Mais pour l'instant, j'ai pas le calendrier en tête. Désolé.
Moi, peut-être, j'ai une petite question. Vous disiez que, en préambule, je crois, que le laboratoire Ville à hauteur d'enfant était activé, notamment par des associations d'éducation populaire, pardon. Et du coup, je me demandais un petit peu, elles interviennent en tant qu'expertes externes. Et est-ce que vous pouviez nous dire un peu qui étaient ces associations-là, qui étaient ces acteurs-là? Et peut-être, est-ce que dans les autres villes où ça a été mis en place, ou peut-être en Italie aussi initialement, est-ce que ce sont les mêmes types d'acteurs? Et s'il y en a d'autres d'acteurs, lesquels ils sont?
Alors, nous, on travaille principalement avec les CMA, les Francas. Donc, ce sont des acteurs très présents qui travaillent avec le pôle éducation. Ils développent différents projets de leur côté. Bon, si on prend le cas des CMA, par exemple, ils déploient sur la cité Gilly pendant l'été un terrain d'aventure. Terrain d'aventure, c'est quoi? C'est mettre à disposition des enfants qui sans inscription, c'est gratuit, ouvert à tous les enfants, des objets de toute nature. Et donc, ils vont dans les conteneurs, ils prennent tout ce qu'ils peuvent s'emparer de tout ce qu'ils y trouvent, construire des cabanes. Bien sûr, il y a des personnes qui sont dans l'environnement des enfants. Et donc, ils ont le champ libre pour faire ce qu'ils veulent. Presque ce qu'ils veulent. Et dans la mesure où, effectivement, ils peuvent s'inventer comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle terrain d'aventure, et ils peuvent inventer leur propre aventure. Et ce CMA, par ailleurs, il propose un festival du court-métrage, du film éducatif. C'est-à-dire qu'il repère dans tout le monde des films éducatifs, des films en destination des enfants, et qui donnent lieu, qui sont projetés, donc les classes sont invitées, qui sont projetées, et qui ils s'en suivent un petit débat avec eux sur des thèmes complètement variables, peut-être l'écologie ou tout autre thème. Donc les CMA, donc effectivement, ce sont des experts en effet, et ils ont aussi une expertise en matière de recueil de la parole de l'enfant. Ça, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'on s'entoure de spécialistes de ce type. Les Francas, c'est la même chose. Alors, et après, donc par rapport à la deuxième question, c'est quels sont les relais? Alors, c'est très variable parce que les CMA effectivement sont pas forcément présents dans toute la France. Les Francas aussi. J'ai pas une connaissance très parfaite de la représentation nationale, mais enfin en tout cas c'est variable. Il y a aussi l'ANASEJ, il y a beaucoup d'autres structures d'éducation populaire ou enfin qui travaillent dans le secteur. Donc il y a le MUC aussi. On est en rapport avec, je dirais, les grandes structures d'éducation populaire et sportive et éducative du territoire. Alors, ce qui est important, c'est effectivement, c'est que on croise toutes les connaissances, dont la leur. Et c'est vrai que ils ont quand même, à la fois par rapport à leur côté opérationnel, mise en œuvre d'événements et d'actions sur le terrain, et leur côté aussi théorique, c'est vraiment intéressant qu'ils soient acteurs du laboratoire. Donc, laboratoire, c'est la réunion justement de toutes ces représentants de structures externes, des référents internes de la ville et de la métropole. Et en fait, il fonctionne par session de travail. Donc, la première session de travail a été consacrée à la rédaction d'une charte ville à hauteur d'enfants. Donc, pour en 3 axes et 12 engagements, indiquer comment et vers quoi on s'achemine pour construire cette ville à hauteur d'enfants.
Il reste 5 minutes. Donc, c'était pour justement essayer d'amener vers une conclusion. Est-ce que la démarche que tu as engagée, Virginie, est-ce que cette idée de rencontrer un public dans ce que tu fais, l'idée, c'est que c'est pas que pour les enfants, il doit y avoir une participation des adultes. Mmh. C'est quand même ça l'idée. Et de la même manière, sur la question de la ville à hauteur d'enfants, l'idée, c'est d'interroger les enfants, mais c'est bien de revenir vers la ville dans sa totalité. Alors, quels sont en quoi cette démarche est, selon toi, efficace pour toucher ce tout public? Et quelles sont les limites que tu as rencontrées? Et pareil, quelles sont les difficultés, finalement, quand on prend cet angle-là? Parce que je pense à ça parce qu'il y a des... On a tendance à penser que cette attention qu'on peut avoir sur les enfants, en France en particulier, vient du fait qu'on a segmenté et compartimenté de manière très claire les publics. Et peut-être que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, où il n'y a pas cette segmentation, on n'a pas besoin de dire on va faire la ville à hauteur d'enfants. Il y a la ville et puis évidemment, il y a les enfants dedans. À partir du moment où on a dit que la ville, c'était plus pour un tel, un tel, un tel, un tel, on finit par se reposer la question de pourquoi ils n'y sont plus. Donc, est-ce que selon toi, Philippe Retz, est-ce qu'il y a cette ambition de se réunir par le prisme de l'enfance, c'est un optimisme qu'on peut avoir.
C'est un optimisme, c'est un prétexte aussi, c'est plein de choses. C'est-à-dire que moi, je dis souvent que si je travaille avec le jeune public, c'est il y a un côté militant, enfin en tout cas de l'éveil culturel, parce que apporter ça aux enfants, c'est assez incroyable. Mais ce qui est totalement fou quand on fait du jeune public et surtout du très jeune public, c'est que les personnes qui poussent la porte des lieux culturels ou qui viennent en espace public, c'est des personnes qui vont pas forcément au théâtre ni voir des événements culturels pour eux-mêmes, mais là cherchent une activité pour leur enfant. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est de relier. C'est-à-dire que le Baril, on est spécialisé dans relier les générations. Là, en ce moment, je suis en train de créer un projet avec des résidents d'EHPAD et des lycéens sur 3 mois. Et que la POTI, l'idée, c'est de créer un festival pour les tout-petits, mais qui relie les parents. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit pensé pour tout le monde. Si l'enfant s'amuse, le parent va passer un super moment. Si le parent passe un super moment, l'enfant va s'amuser. Et comment on fait ensemble, comment on se relie. Moi, j'ai beaucoup souffert en tant qu'artiste de dire je fais du jeune public et qu'on me mette dans une autre case. Presque qu'on m'a déjà dit que je faisais pas des vrais spectacles puisque je crée pour des tout petits, voire des bébés. Et là, c'est venir défendre autre chose. Et c'est pour ça que je m'attelle à aller avec des tout petits, avec des grands, à segmenter aussi, parce que évidemment, j'ai une connaissance du public, donc je vais créer une toute petite boîte et je vais créer une boîte pour les un peu plus grands. Mais l'idée, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur de nos têtes, enfin, on est tous et toutes des êtres humains à part entière, avec un cerveau dans lequel il se passe plein de choses. Et pour moi, voilà, c'est très bénéfique que ça puisse être, relier les générations. Pour moi, que la POTI, c'est un festival des générations. Et la ville à hauteur d'enfants, c'est ce que j'entendais au début. Et c'est pour ça que moi, j'ai tout de suite adhéré à ce projet-là. C'est évidemment, en créant une ville à hauteur d'enfants, ça veut dire qu'on crée une ville où les choses sont possibles et que nous aussi, en tant qu'adultes, on va se balader dans un terrain plus léger, un terrain de jeu, un terrain qui n'est pas dangereux. Enfin, on sera beaucoup plus heureux, je pense.
Moi, je pense que l'enfant est un formidable potentiel d'invention, de créativité. Donc, si on part de ce principe et qu'on les écoute et qu'on donne libre cours à leurs envies, leurs propositions, leurs rêves, je crois qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. Et ces mêmes enfants, deviendront adultes et verront effectivement le résultat de ça. Et c'est vraiment, je crois qu'il faut croire en potentiel de l'enfant, et cette ville construite par rapport à eux, pour eux, c'est, je crois que c'est une belle utopie. Alors après, on verra dans quelques années. Alors quelle est l'échéance ? Il faut compter ça en nombre d'années, hein, peut-être une décennie. On verra déjà ce que ça donne. Mais je crois que c'est plutôt quelque chose d'intéressant et une nouvelle façon de faire. Et on l'a vu, on le voit en fait dans les pays d'Europe du Nord, où effectivement, culturellement, l'enfant a plus de place. Hein, on voit ce que ça donne. C'est-à-dire qu'en effet, ce sont des villes différentes. On arrivera peut-être à ça, avec des parcs complètement différents, une prise d'autonomie surtout de l'enfant qui est beaucoup plus importante que chez nous. Et ça, c'est vraiment un aspect sur lequel on s'emploie. Et donc ça, à la fois, donc des éléments culturels, ça c'est, et puis aussi des éléments sociétaux. C'est vrai que les enfants maintenant sont, comme l'a qualifié Thierry Paco, on a des enfants d'intérieur maintenant, c'est-à-dire qu'on les laisse plus sortir. Donc c'est compliqué parce qu'effectivement, à la fois il faut changer les mentalités et changer les habitudes. Donc c'est pour ça que c'est un travail de longue haleine.
Et juste pour rebondir à ce que tu disais, ça me fait penser à une réplique dans un spectacle dans lequel je joue, mais qui dit « Il est temps de croire en nos rêves et d'en faire une stratégie ». Et je trouve que c'est une très belle phrase et je pense que les enfants permettent ça.
Merci. Merci. Merci.
Les rendez-vous M28, un projet réalisé en coproduction avec les radios du CRLO.